Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Tous les rendez-vous majeurs consacrés à la lutte et aux recherches liées au VIH-Sida traitent de la tuberculose. Et c'est le cas lors de la conférence internationale ICASA sur le sida en Afrique qui se tient toute cette semaine ici à Abidjan. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, cette maladie infectieuse reste le premier facteur de décès lié au VIH. 390 000 morts en 2015, soit le tiers des pertes en vie humaine liées au virus de l'immunodéficience humaine. En 2015, plus du quart des nouveaux cas de tuberculose recensés par l'Organisation mondiale de la santé sur la planète, 26% de ces cas s'étaient déclarés sur le continent africain. La tuberculose affecte près de 10,5 millions de nouveaux malades chaque année. Elle a tué 1 700 000 personnes l'an passé. Des chiffres effrayants, contrebalancés par d'autres statistiques, la porteuse d'espoir, le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis aussi de sauver 53 millions de vies entre 2000 et 2016. Pour lutter contre la tuberculose, la volonté est là. L'OMS a défini il y a 3 ans déjà une stratégie ambitieuse qui s'appuie sur les soins, le soutien aux malades et la recherche. Alors, derrière l'ambition, quels moyens ? Où en est l'implication des pouvoirs publics dans cette stratégie de lutte contre la tuberculose ? Comment expliquer le sous-financement chronique de cette lutte ? Des questions au centre de cette émission. Tuberculose, VIH, les traitements existent. Une émission enregistrée à l'occasion de la tenue de la 19e édition d'ICASA, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Une émission produite avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Avec nous sur le lieu de cette conférence à Abidjan, docteur Clémence Barré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère régionale en programme au sein de l'équipe régionale d'appui de l'ONU SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec nous aussi le professeur Serge Daumois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service de pneumophysiologie au CHU de Trècheville, ici à Abidjan, chargé de la formation, aussi du renforcement des capacités à la direction de coordination du programme national de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Alors, je continue ce tour de table avec vous, professeur François Dabis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Bordeaux en France. Vous dirigez l'ANRS, l'agence de l'INSERM dédiée à la recherche Nord-Sud, SIDA, VIH, hépatite. Et puis, un autre épidémiologiste est avec nous, c'est le docteur Olivier Marcy, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le projet TB-SPID pour réduire la tuberculose infantile en Afrique et en Asie. Vous allez tout à l'heure nous expliquer de quoi il s'agit.
RFI.
Alors, la tuberculose est une maladie qu'il est possible de prévenir, que certains traitements permettent de soigner. Docteur Clémence Barré, la tuberculose, c'est aujourd'hui encore la première cause de mortalité pour les personnes séropositives.
En effet, la tuberculose est la première infection opportuniste au cours du sida, aujourd'hui encore. Et nous avons actuellement des grands programmes qui se mettent en place dans les pays pour essayer d'adresser ces questions de co-infection entre le VIH et la tuberculose. Donc, c'est vrai que sur le terrain, ce que nous constatons, c'est que le dépistage du VIH se fait plutôt bien dans les sites qui prennent en charge la tuberculose. Mais par contre, il se fait moins bien dans les sites qui prennent en charge le VIH. Nous mettons en place des centres qu'on appelle des one-stop shop ou alors guichets uniques où le patient qui vient se faire soigner peut être dépisté pour les deux maladies et en même temps traité pour les deux maladies. Mais en plus, comme vous savez, c'est une maladie qu'on prévient au cours du sida. Donc aujourd'hui, quand les personnes n'arrivent pas à un stade trop avancé, on est en mesure de leur donner une prévention contre la tuberculose à base d'isoniazide. Donc c'est une prophylaxie qui est donnée aux personnes. Mais en plus, maintenant, nous mettons en place, vous avez dû en entendre parler, la stratégie de tester et traiter. Donc dès qu'on teste une personne comme étant positive, on passe au traitement. Et donc, dans ce cas, on réduit d'autant les infections opportunistes, puisque la personne est vue et traitée à un moment où le statut immunologique est encore très bon.
Alors la tuberculose, une maladie infectieuse d'origine bactérienne, c'est la plus mortelle au monde. Comme d'habitude dans notre émission, on commence avec des fondamentaux, professeur François Dabis. Il y a la tuberculose latente et la tuberculose active. C'est quoi les différences pour le grand public? Beaucoup de monde portent en eux la tuberculose, mais ne sont pas malades de la tuberculose.
Oui, c'est un peu la même chose que pour le VIH-Sida. Vous pouvez porter le virus, ou ici une bactérie, pendant de nombreux mois ou de nombreuses années, avant de l'exprimer, d'ailleurs ce n'est pas systématique, avant de devenir malade. Et à ce moment-là, bien sûr, vous êtes beaucoup plus contaminant pour votre entourage, et bien sûr vous pouvez passer au stade des complications, et donc là le traitement devient absolument impératif. Mais la tuberculose latente, aujourd'hui on le sait, mérite aussi qu'on la prenne en charge.
Docteur Olivier Marcy, quels sont justement ces signes cliniques quand la maladie se déclare, quels sont les symptômes de la maladie?
La tuberculose, quand elle se déclare, se présente sous une forme de toux chronique, de fièvre chronique, c'est-à-dire une toux qui dure sur plusieurs semaines avec un affaiblissement progressif. Ce sont des signes qui sont finalement assez peu spécifiques, qui ressemblent à d'autres maladies, qui expliquent en grande partie la difficulté diagnostique qu'ont les médecins à donner un diagnostic définitif de cette maladie, dans certains contextes, notamment celui de l'immunodépression. Les patients qui sont atteints par le VIH ou les enfants chez qui il est difficile de reconnaître la tuberculose et de penser en fait à faire ces prélèvements, les prélèvements microbiologiques qui vont nous permettre de confirmer le diagnostic.
Alors quand ces signes sont là, ils doivent pousser à se faire dépister, test recommandé aussi pour tous les patients séropositifs. On vient d'en parler justement. Nous avons rencontré au centre communautaire de soins de Gonzagueville, sur la commune de Port-Boué, près d'Abidjan. Cette femme, elle s'appelle Moya Coutouin, elle est aide-soignante et elle gère le service dédié à la tuberculose.
Nous sommes dans un centre de santé, un centre de suivi de tuberculose, de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Ça dépend chaque année, soit ça diminue, soit ça augmente, bon, ça varie. Mais en tout cas, on va prendre 260 malades au plus.
Est-ce qu'il s'agit dans la majorité des cas de co-infection VIH ou de tuberculose, on dirait, simple?
Bon, cas de tuberculose VIH, beaucoup.
Comment ça se passe au moment du diagnostic? Quel est l'examen auquel vous procédez pour justement dépister la tuberculose ici?
C'est l'examen de crachat. Le malade, quand il vient, quand il dit qu'il a une toux qui dure plus de 2 semaines, on lui donne une boîte, il tousse et on lit ça au microscope.
Quel est le traitement qui est prescrit aux personnes qui présentent conjointement une sérologie positive, donc qui sont séropositifs et qui en plus souffrent d'une tuberculose?
Dans le cas du VIH, on leur donne des antirétroviraux qu'on appelle les ARV. La tuberculose ici, je donne du RHZE. Quand on commence le traitement, ils ont 2 mois de traitement, on leur donne RHZE, la rifampicine, l'isoniazid, les tambictol et la pyrazinamide. Quand ils finissent les 2 mois, on leur fait leur examen de crachat pour voir si l'état de santé est bon. Donc quand on voit que l'état de santé est bon, on passe au RH150, la rifampicine et l'isoniazid. 4 mois, plus les 2 mois en début du traitement, ça fait les 6 mois de traitement.
Tout est pris en charge ici, c'est gratuit pour les personnes qui souffrent de tuberculose?
Oui, tout est gratuit, rien n'est payant ici.
Est-ce que vous avez détecté ici des cas de tuberculose multi ou ultra résistante?
Non, pas encore. Parce que quand ils viennent, une fois qu'ils disent « Madame, je tousse », et j'ai déjà fait une tuberculose, je les emmène directement au grand centre. Et c'est là-bas qu'on les dépiste.
Une dernière question que je voudrais vous poser, c'est sur la prévention. Quand la personne est donc tuberculeuse, est-ce que vous donnez toute une liste de conseils pour faire attention à la maison au retour, pour ne pas contaminer l'entourage? Quels sont ces conseils?
D'abord, la première des choses, on leur dit d'enlever les assiettes, la cuillère, le verre, la fourchette, tout ce qu'ils mangent avec, ils enlèvent, ils déposent à côté. Quand ils sont à la maison, ils ne doivent pas dormir avec quelqu'un qui n'a pas la tuberculose parce que la toux se manifeste la nuit. Donc, ils dorment séparément. Ils ne doivent pas prendre l'alcool. Par contre, ils peuvent prendre, par exemple, le Milo avec du lait, simplement. La nourriture, il n'y a pas de totem. Tout ce que le patient a envie de manger, il mange sans problème.
Voilà ces conseils de Moïa Coutouin, aide-soignante au centre communautaire de soins de Gonzagueville sur la commune de Port-Boué. Professeur Serge Daumois, vous êtes d'accord avec les conseils de prévention que vient de donner justement cette femme qui travaille sur ce centre ici à quelques kilomètres d'Abidjan?
Oui, mais je pense qu'elle n'a pas dit l'essentiel.
C'est-à-dire?
Parce que dans la prévention, on insiste beaucoup sur l'éducation à la toux et l'hygiène respiratoire. Donc, ce sont les mesures à prendre pour éviter de propager les bacilles tuberculeux dans l'atmosphère. Et ça, c'est très important. Le patient qui a une tuberculose pulmonaire contagieuse doit pouvoir se protéger la bouche et le nez avec un mouchoir lorsqu'il tousse. Il faut aérer la pièce, il faut qu'il y ait un renouvellement d'air conséquent dans la salle où se trouve le malade.
On a parlé d'une certaine méconnaissance, notamment des symptômes. Professeur Serge Daumois, est-ce que vous pensez qu'il existe encore une certaine peur de la discrimination par rapport à la tuberculose? Est-ce que c'est encore une maladie qui fait peur?
En termes de discrimination, je ne pense pas, puisque dans les différents messages de sensibilisation qui sont fournis à la population, on insiste surtout sur la toux. Parce que en réalité, il faut savoir qu'il y a deux types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire qui est la plus contagieuse et il y a la tuberculose extra-pulmonaire qui touche des organes autres que le poumon. Donc le but d'un programme, c'est de dépister les patients contagieux, de les traiter, de les guérir et de briser la chaîne de contamination. Et donc l'accent est beaucoup plus mis sur les formes pulmonaires contagieuses. Et dans ce cas-là, il est dit, par exemple, au niveau du programme tuberculose, que lorsqu'une personne tousse depuis au moins 2 semaines, qu'on n'arrive pas à trouver l'étiologie de cette toux-là, il faut penser à la tuberculose et orienter le patient qui a une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines vers un centre de diagnostic et de dépistage.
Alors, ce qu'on a vu justement dans ce centre de traitement, c'est que l'essentiel des contaminations était associé à un VIH. Hein, c'est ce qu'on a entendu dans ce petit reportage. Justement, le taux de mortalité dû au sida a été divisé par 2 depuis 2005. Alors, dans quelle mesure, docteur Clémence Barré, les progrès actuels de la lutte contre le VIH peuvent contribuer à une meilleure prise en charge des infections conjointes?
Absolument. La lutte contre le VIH-Sida nous a appris beaucoup de choses. Déjà qu'il fallait mettre le patient, la personne au centre de tout le dispositif de soins, qu'il fallait impliquer les communautés dans la prise en charge, que ce ne soit pas seulement des aspects médicaux qui soient couverts dans la prise en charge d'une personne atteinte du VIH. Mais en effet, par justement cette prise en charge du VIH qui est si spécifique, je pense que beaucoup d'autres maladies ont pu bénéficier d'une approche complète comme celle du VIH-Sida. Et donc, en matière de co-infection, donc on vient de parler de la co-infection tuberculose et VIH, je pense qu'il y a énormément d'efforts qui vont être faits et qui sont en train d'être mis en place pour s'occuper de la même manière des co-infections entre le VIH et les hépatites, et en particulier l'hépatite C. Parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des médicaments qui marchent, des médicaments qui restent encore chers, bien qu'ils aient diminué de coût. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait un effort international, un plaidoyer, pour que les médicaments, comme ça a été le cas pour les antirétroviraux, soit plus accessible.
On va le voir, il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Voilà. Justement, on va parler des traitements avec vous, professeur François Dabis. Quels médicaments existent aujourd'hui contre la tuberculose et est-ce qu'il existe certaines limites à ces traitements?
Alors, paradoxalement, on a fait relativement peu de progrès sur les médicaments qu'on utilise sur la tuberculose, c'est-à-dire que ce sont vraiment les mêmes molécules et les mêmes associations de molécules qu'on utilisait historiquement depuis fort longtemps. Néanmoins, on sait beaucoup mieux les utiliser, notamment bien sûr chez les personnes qui vivent avec le VIH. Il y a à peu près une quinzaine d'années, on a étudié et l'ANRS y a contribué, alors ça ne s'est pas fait essentiellement sur le continent africain, ça s'est fait au Cambodge. On s'est posé la question de savoir comment on devait utiliser les médicaments antituberculeux et les médicaments antirétroviraux, dans quel ordre il fallait les démarrer, lorsqu'il y avait besoin de donner les deux. Toutes ces choses-là ont été progressivement normalisées. Mais l'arsenal thérapeutique dans le traitement de la tuberculose reste toujours basé sur à peu près 4 médicaments et pas beaucoup plus en première ligne. Alors, il y a des avancées possibles, il y a des choses qui sont dans ce qu'on appelle dans les tuyaux de la recherche. recherche, mais qui ne sont pas aujourd'hui opérationnels pour être utilisés au niveau des centres antituberculeux et encore moins au niveau des grands programmes nationaux.
On imagine un scénario, hein, et ça arrive, quelqu'un a un problème de toux, il va se faire dépister pour la tuberculose, une révélation de séropositivité. Est-ce qu'on peut lancer en même temps le traitement ciblé tuberculose?
Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail de la pratique. Peut-être que mon collègue pneumologue voudra en donner un peu plus néanmoins. Mais on peut dire qu'on sait à peu près comment gérer ces deux types de traitements l'un avec l'autre en étant très attentif. Ça demande une attention très particulière et ça peut créer des situations paradoxales au début de ce traitement. Mais on a maintenant des choses très claires. Je ne sais pas si vous voulez
professeur rajouter. Professeur Demoy, oui. Il y a des risques d'incompatibilité parfois entre ces deux attaques pour deux maladies qui finalement sont très liés.
Il faut dire que pendant longtemps, et la date du début du traitement antirétroviral par rapport à celui de la tuberculose a fait l'objet de controverses. Il y a eu des recommandations qui ont été faites, mais aujourd'hui, je pense que dès qu'un malade de la tuberculose est dépisté séropositif, il est conseillé de commencer le plus tôt possible les deux traitements. Et d'ailleurs, chaque patient qui présente une co-infection tuberculose VIH bénéficie systématiquement d'un paquet minimum de soins qui associe outre le traitement antituberculeux, le traitement antirétroviral, mais aussi la prophylaxie au cotrimoxazole. Le cotrimoxazole qui est une molécule qui permet également de réduire de façon considérable les autres infections opportunistes qui peuvent survenir chez ce malade de la tuberculose qui présente aussi une infection à VIH.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler d'un cas particulier, c'est le dépistage de la tuberculose chez les enfants. Docteur Clémence Barré, vous êtes sur le point de nous quitter. Juste, je voulais revenir sur une information importante, hein. Cette conférence ICASA s'est fixée une série d'objectifs. Le premier, c'est d'agir pour favoriser l'objectif qui tient en trois chiffres, 90, 90, 90. Est-ce que vous pouvez rappeler justement ce qu'il y a derrière cette triple ambition à l'horizon 2020? On parle VIH, mais on l'a compris, aujourd'hui, quand on parle VIH, on parle forcément aussi de la tuberculose.
Absolument. Les chefs d'État, la communauté internationale se sont engagés en 2016 à en finir avec le sida comme un problème de santé publique d'ici à 2030. Donc le premier 90, donc, identifier 90% des personnes qui sont porteuses du VIH. On a une estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH dans chaque pays. Le deuxième 90, c'est sur ces personnes qui ont été dépistées positives que 90% d'entre elles au moins soient sous traitement antirétroviral. Et le troisième 90, c'est que 90% des personnes qui sont sous antirétroviraux aient une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'il y ait très peu de particules du virus dans leur sang. Et ceci parce que on sait qu'une personne qui a une charge virale indétectable ne transmet presque plus le VIH. Et au niveau de la détection de la charge virale, nous sommes seulement à une disponibilité de charge virale pour 25% des personnes qui en ont besoin.
Donc encore et beaucoup de chemin.
Encore beaucoup de chemin. Et sur les enfants, je voulais insister sur la question des enfants. Là, c'est vraiment un cri du cœur. Il y a une urgence absolument à s'occuper des enfants atteints de VIH-SIDA. Beaucoup d'entre eux ne sont pas identifiés, ne sont pas dépistés. Et aujourd'hui, nous n'avons que 20% d'entre eux qui sont sous antirétroviraux. Nous avons donc 400 000 enfants dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont à risque de mourir très vite du VIH-SIDA si des mesures ne sont pas prises pour régler ce problème.
Merci beaucoup, docteur Clémence Barré. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu les chiffres justement fournis par l'UNICEF et l'ONU-SIDA qui montrent que 4 enfants sur 5 ne sont pas pris en charge par traitement antirétroviral. 4 enfants sur 5 qui sont séropositifs aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Merci docteur Barré. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale en programme au sein de l'équipe d'appui de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous restez avec nous, messieurs, professeur Serge Demoy, professeur François Dabis, docteur Olivier Marcy. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, toujours pour parler de la lutte contre la tuberculose. Les États et les donateurs donnent-ils justement les moyens des ambitions fixées par l'OMS? C'est ce que l'on verra dans la deuxième partie de l'émission, juste après les informations.
RFI, la radio du monde.
Priorité santé. Caroline Paré.
On retrouve de nos invités ici à Abidjan où se tient jusqu'à vendredi la conférence ICASA sur le sida en Afrique. Deuxième partie de cette émission consacrée à la lutte contre la tuberculose et la co-infection VIH-tuberculose. Toujours avec nous le professeur Serge Daumois, chef du service pneumophtysiologie au CHU de Trècheville, ici en Côte d'Ivoire. Le professeur François Dabis, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Bordeaux, directeur de l'ANRS, et le docteur Olivier Marcy, médecin épidémiologiste. Docteur Marcy, vous avez particulièrement travaillé sur la tuberculose pédiatrique ou infantile. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité, on commence par le commencement, dans le dépistage des enfants quand on recherche justement les causes, par exemple, d'une mauvaise toux? Pourquoi c'est compliqué de détecter la tuberculose?
La tuberculose de l'enfant est particulière en ceci qu'elle... elle est ce qu'on appelle possibacillaire, c'est-à-dire qu'il y a peu de bactéries, peu de bacilles chez l'enfant, bien que l'enfant puisse présenter des formes très sévères et que la tuberculose soit très grave chez l'enfant. Ça complique notamment la détection qu'on appelle microbiologique de la maladie, c'est-à-dire la recherche du bacille qui se fait chez l'adulte, qui s'est fait pendant très longtemps par l'examen microscopique des crachats, on a parlé tout à l'heure de cet examen, et qui est rendu très difficile chez l'enfant par le fait qu'il y a peu de bactéries, donc on a du mal à les détecter, et de plus, la difficulté chez l'enfant de moins de 10 ans, en fait, à produire ces crachats, les enfants ne savent pas expectorer, ce qui implique de faire des prélèvements qui sont beaucoup plus invasifs, qu'on appelle des aspirations gastriques, qui nécessitent qu'on introduise une sonde dans le nez d'enfant jusqu'à son estomac. Ça se fait à jeun, 3 jours de suite le matin, ça nécessite une hospitalisation. Ce qui, vous l'imaginez, est beaucoup plus difficile à réaliser dans un centre comme celui dont nous venons d'entendre parler ici en Côte d'Ivoire, où effectivement on est dans une prise en charge ambulatoire et qui ne permet pas de faire ces prélèvements.
Oui, parce que quand on était dans ce centre, hein, il y avait une simple table, un évier, un microscope, c'est rudimentaire, pas question justement de faire ce genre d'examen qui demande du temps, beaucoup de moyens, y compris aux parents, parce que on n'a pas forcément l'argent pour faire ce genre d'examen très poussé.
Tout à fait. Et du coup, le résultat de cette situation est que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le programme national est bien organisé et où les adultes peuvent être bien pris en charge dans tout un réseau de centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose, les enfants, eux, en fait, ne sont pas pris en charge dans ces centres et sont envoyés dans des hôpitaux régionaux où peuvent éventuellement être fait le diagnostic par des équipes pédiatriques plus spécialisées, ce qui conduit à cette situation globale au niveau mondial de sous-détection de la tuberculose chez l'enfant. On a des chiffres actuels, donc il y a 1 million de cas de tuberculose par an chez l'enfant, donc 10% des cas au niveau mondial, 250 000 d'entre eux, 1 sur 4 en décèdent. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que la quasi-totalité de ces enfants décèdent parce qu'ils n'ont pas accès au traitement, parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués.
Docteur Olivier Marcy, on va conclure avec ce volet justement sur la tuberculose pédiatrique. Vous dirigez le projet TB-SPID, projet pédiatrique justement. De quoi s'agit-il précisément ?
Alors, il s'agit d'un projet de recherche qui est à l'Université de Bordeaux avec un consortium de partenaires de recherche dans 7 pays, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda, la Zambie, le Mozambique et le Cambodge, donc 6 pays en Afrique et un pays en Asie du Sud-Est. Et nous allons justement travailler sur des méthodes pour réduire ce problème du sous-diagnostic de la tuberculose chez l'enfant et donc réduire à terme la mortalité. Il y a 2 axes principaux. Nous allons travailler sur des méthodes pour permettre de décentraliser le diagnostic, donc permettre d'amener le diagnostic de l'enfant dans des centres comme celui dont nous avons parlé tout à l'heure.
Des centres communautaires vraiment en phase justement avec les personnes sur le terrain, parce que des fois c'est compliqué d'aller loin à l'hôpital parce qu'en plus il faut laisser la famille.
Tout à fait. Alors dans ces centres, nous allons leur proposer de faire du diagnostic microbiologique, donc de pouvoir détecter le bacille avec des méthodes de prélèvement plus adaptées, des méthodes qu'on peut faire en ambulatoire chez un enfant qui arrive le matin. Nous allons aussi permettre d'utiliser des techniques très très sophistiquées de biologie moléculaire, mais qu'on appelle la PCR, ce test, le Gene Expert, mais qui seront faits sur des machines qui fonctionnent sur batterie et qui peuvent être mises en place et utilisées par des infirmiers. Et nous allons tester des stratégies un peu différentes de décentralisation pour voir lesquelles seraient plus adaptées au contexte, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a un autre volet très important qui est le dépistage de la tuberculose chez des enfants qui présentent des difficultés spécifiques. Des enfants qui sont très vulnérables, chez qui la tuberculose est encore plus difficile à reconnaître. On parle ici des enfants infectés par le VIH, des enfants qui ont des malnutritions aiguës sévères et qui, du fait de leur infection par le VIH ou de la malnutrition, ont des symptômes moins faciles à reconnaître, moins spécifiques et qui posent vraiment des difficultés diagnostiques. Et pour finir, nous allons aussi tester des enfants qui, pour la tuberculose, des enfants qui présentent des pneumonies sévères. Nous parlions tout à l'heure des symptômes de la tuberculose et le professeur Daumois vous rappelait qu'on pense à la tuberculose quand les gens ont toussé plus de 2 semaines. Chez l'enfant, on a de plus en plus de données nous montrant qu'ils peuvent se présenter avec des formes aiguës de tuberculose qui sont mal reconnues, qui sont mal prises en charge et du coup qui aboutissent au décès. Donc en partenariat avec les institutions de recherche dans ces 7 pays, les programmes nationaux, nous allons mettre en place un programme ambitieux de recherche afin de proposer à terme une intégration dans les recommandations de l'OMS d'une stratégie décentralisée de diagnostic de cette tuberculose.
Alors on a parlé justement dans la première partie de l'émission du dépistage, de la sensibilisation, de la prise en charge des traitements. Professeur François Dabis, quels acteurs de santé, quels professionnels doivent s'impliquer particulièrement pour lutter contre cette maladie ?
C'est assez paradoxal de penser que avant qu'on ait des médicaments antirétroviraux, lorsque les personnes vivant avec le VIH étaient repérées comme ayant une tuberculose, on les envoyait vers le programme tuberculose qui était complètement séparé. Puis après, les médicaments antirétroviraux sont apparus et on a vu ces patients s'améliorer tellement spectaculairement qu'on s'est dit peut-être qu'on n'a même pas trop besoin de s'occuper de leur tuberculose. Or, on s'aperçoit que c'est pas vrai. On a toujours des problèmes avec la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, et on sait maintenant qu'on pourrait le prévenir avec les antirétroviraux, mais aussi en donnant certains des antibiotiques qui servent au traitement également à des fins préventives. D'où, comme l'a indiqué Madame Barré tout à l'heure de l'ONU SIDA, ce concept d'avoir un seul guichet, que ça ne soit plus des dialogues mal faits entre des professionnels qui ont une spécialité à part, mais il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble avec une seule porte d'action. Et donc il y a une vraie réorganisation des systèmes de santé qui est absolument nécessaire et qui se fait, mais trop lentement à notre avis.
Professeur Serge Daumois, vous aussi vous êtes d'accord, selon vous il y a un véritable travail de formation, voire de réorganisation pour avoir une approche conjointe VIH-tuberculose ?
Tout à fait, parce que en réalité, c'est un patient qui a deux maladies, hein, l'infection à VIH et il a la tuberculose, et donc il y a nécessité de prendre en charge de façon conjointe les deux pathologies. Si on ne le fait pas, mais on ne rend pas du bien aux malades.
Et justement, au-delà des traitements, même au-delà de ces questions de dépistage, élément très important, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, particulièrement avec les enfants, il s'agit de la dénutrition, la malnutrition, une aide alimentaire. Est-ce que c'est nécessaire pour les personnes qui sont atteintes de tuberculose, professeur Serge Daumois ?
Oui, parce que on a vu que les études ont montré que la majorité des patients qui avaient une tuberculose somnotropique provenaient de familles qui étaient, du point de vue socio-économique, défavorisées, et que par conséquent, ils étaient déjà malnutris avant d'avoir la tuberculose. Donc, ils entraient dans un cercle vicieux où la malnutrition provoquait la tuberculose et où la tuberculose aggravait la malnutrition. Et donc, c'est un problème. Et pour certains patients qui sont suivis pour la tuberculose en Côte d'Ivoire, notamment les prisonniers et ceux qui ont les cas de tuberculose multirésistants, il y a un appui alimentaire qui leur est donné. Mais pour les autres malades, c'est plutôt des conseils nutritionnels qui leur sont prodigués pour que, justement, ils aient une alimentation équilibrée.
Alors, pour ces maladies infectieuses, hein, les institutions fixent des objectifs, leurs ambitions pour la tuberculose. Un plan a été élaboré il y a 3 ans par l'OMS. Ça s'appelle Stratégie mondiale. Objectif, mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose, réduire le nombre de décès de 95%, horizon 2035. Professeur François Dabis, est-ce que le monde et les États, on peut dire, hein, les gouvernements, se donnent vraiment les moyens de cette ambition ?
Alors, la prise de conscience n'est pas aussi forte que dans le champ du seul VIH, il faut bien le reconnaître. Il y a peu d'engagement politique autour de la simple question de la tuberculose. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'au cours des dernières années, depuis que notamment le Fonds mondial a été créé, qui est une instance internationale de financement des grands problèmes de santé, eh bien ce Fonds mondial s'adresse justement au sida, à la tuberculose et au paludisme. Et donc en pouvant financer par les mêmes mécanismes les programmes de lutte contre les trois maladies, on peut apporter incontestablement des solutions qui il y a quelques années semblaient pratiquement hors d'atteinte par manque de moyens et manque d'organisation.
Professeur Serge Demoy, comment décrire les efforts propres à la Côte d'Ivoire justement dans ce programme de lutte contre la tuberculose? Est-ce que vous qui êtes pneumologue justement, vous jugez que l'effort est suffisant?
Je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, beaucoup a été fait, puisque à l'heure où je vous parle, il y a plus de 220 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et dans ces centres, il y a des médecins, il y a des microbiologistes qui sont formés, qui prennent au quotidien les malades de la tuberculose. Mais j'avoue que par rapport aux attentes, je pense que l'investissement national est insuffisant et on a constaté que, comme le disait le professeur Dabis, et le Fonds mondial est venu en appui. La Côte d'Ivoire est éligible au Fonds mondial. Mais lorsqu'on regarde les données de l'OCDE, on se rend compte que même l'appui du Fonds mondial est encore insuffisant, puisque quand on regarde la part du budget 2015 alloué au sida, elle est 7 fois supérieure au budget qui est alloué à la tuberculose et au paludisme. Donc le véritable défi dans l'éradication de la tuberculose, c'est l'augmentation des fonds et la pérennisation des fonds pour la lutte contre la tuberculose. Et je pense que c'est un effort mondial qui est demandé. Je me souviens encore que dans une des journées mondiales de la tuberculose, le thème c'était TB anywhere, TB is everywhere. C'est-à-dire que la tuberculose quelque part, c'est la tuberculose partout. On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre la tuberculose dans une région s'il y a flambé ailleurs. Donc c'est un véritable défi, l'augmentation des
Docteur fonds. Olivier Marcy, vous voulez réagir? Je voudrais juste poser une question au professeur Serge Demoy. Ici en Côte d'Ivoire, le dépistage du VIH, c'est gratuit. Est-ce que c'est gratuit de faire dépister une tuberculose?
Le dépistage de la tuberculose, en principe, il est gratuit pour les patients qui sont symptomatiques. Par contre, lorsqu'on rentre, par exemple, dans le cadre de l'enquête d'entourage, les examens complémentaires sont à la charge du patient et de ses parents. Donc, c'est également un frein à l'institution de la prophylaxie à l'isoniazide, c'est le PVVIH. Donc, il va falloir aussi régler ce côté-là où le bilan complémentaire pour essayer d'éliminer la tuberculose risque d'incomber aux patients et à ses parents.
C'est très paradoxal pour une maladie contagieuse de ne pas dépister les gens qui peuvent être justement victimes de cette contagion. Ça paraît totalement aberrant en termes de santé publique.
Donc c'est les symptomatiques, il n'y a pas de problème. Mais l'enquête d'entourage constitue une autre source de problèmes qui nécessite d'être résolu.
Et je vous donne enfin la parole, docteur Olivier Marcy, excusez-moi.
Non, je vous en prie, je voulais juste, vous demandiez tout à l'heure qui doit être impliqué, et on sait que les progrès majeurs dans l'accès au traitement antirétroviral ont été possibles par le financement international, mais aussi par la volonté politique de tous les gouvernements, notamment en Afrique. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans la tuberculose. Il y avait une réunion récemment à Moscou des ministres de la Santé au niveau international pour parler de cette maladie particulièrement, et vous savez probablement qu'il y a une réunion spécifique sur la tuberculose qui est prévue en 2018 en marge de l'Assemblée des Nations Unies, donc au plus haut niveau politique, au niveau mondial, et ça sera la première fois que la tuberculose fera l'objet d'une telle mobilisation, et nous espérons justement que cette mobilisation permettra de lutter contre ce décalage entre les financements qui vont à la recherche pour le VIH, qui sont évidemment importants et nécessaires, mais vous l'avez compris, sur la tuberculose, notamment avec l'augmentation des une tuberculose multirésistante, il y a des progrès majeurs à faire. On ne dépiste que 2/3 des patients ayant des tuberculoses dans le monde, et vous l'avez compris, chez les enfants, la situation est pire. Donc il y a vraiment cette implication politique est nécessaire, et cette prise de conscience est absolument nécessaire au niveau international.
Il y a une thématique qu'on n'a pas encore abordée, professeur François Dabis, c'est l'observance. Pour toutes les maladies infectieuses, on le sait, indispensable de prendre son traitement, de le prendre régulièrement et de le prendre jusqu'au bout. Pourquoi c'est particulièrement vrai pour la tuberculose ?
Eh bien, c'est vrai pour toutes les maladies infectieuses, comme vous l'avez dit. Le problème de la tuberculose, c'est que, comme on l'a dit, on associe des médicaments, donc ça, c'est déjà pas très simple. On a mis en place des moyens où on demande aux personnes de revenir parfois se faire traiter dans les centres de dispensation des médicaments afin que l'on observe directement cette prise médicamenteuse. Donc on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire il y a quelques années pour améliorer cette adhésion au traitement. Le risque, il est très simple, c'est que l'on crée des bacilles tuberculeux qui vont, n'ayant pas été totalement guéris, traités par ces antituberculeux, eh bien vont progressivement se mettre à résister, et donc on va avoir des bacilles qui vont être résistants aux médicaments. Alors c'est très grave pour le patient, on peut imaginer qu'on va traiter par des alternatives s'il le faut, mais c'est aussi très grave parce qu'on va transmettre des bactéries résistantes à d'autres, des bacilles résistants à d'autres individus. C'est le problème de la tuberculose qu'on appelle résistante, multirésistante, extrêmement résistante. Heureusement, ce sont des problèmes relativement peu fréquents, mais néanmoins existant dans la région où nous sommes ici, à Abidjan. Ce sont des problèmes qui ont pris des proportions presque gravissimes en Afrique du Sud, par exemple, ou dans les pays qui sont autour. Et ce sont des problèmes qui nous inquiètent énormément pour l'Europe de l'Est, les anciens pays du bloc soviétique. Et c'est la raison pour laquelle Olivier Marcy l'indiquait tout à l'heure, la dernière conférence de haut niveau qui s'est tenue, c'était à Moscou.
Parce qu'il y a un taux énorme de contamination de tuberculose en Russie. C'est très très spectaculaire.
Oui, et dans ces républiques, notamment le Kazakhstan, et on est à 20% de résistance chez les nouveaux cas et 50% de résistance chez les patients qui reviennent pour un deuxième traitement. Donc on est vraiment confronté. On ne peut plus considérer que le traitement dont on a parlé tout à l'heure, les 4 médicaments, les 6 mois, est le traitement de référence, puisqu'en fait il faut penser tout de suite à traiter par des régimes beaucoup plus compliqués, des médicaments plus toxiques. Et qui sont nécessaires pour le traitement de la tuberculose multirésistante.
Professeur Serge Domois, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème ou non de disponibilité des traitements antituberculeux en Afrique de l'Ouest et pour le pays dans lequel vous travaillez, pour la Côte d'Ivoire ?
Je préfère parler de ce que je connais. Et en Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, nous n'avons jamais connu de rupture en antituberculeux. Et je pense que c'est la politique du programme qui fait que, et à chaque fois, il y a une réserve de sécurité d'au moins 6 mois. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème.
Il y a des médicaments qui sont, on disait, plusieurs médicaments associés, mais ce que l'on a vu dans les centres de soins, les centres communautaires, c'est que ces différentes molécules sont associées en un seul comprimé pour faciliter justement la prise par les patients.
Exactement. Au début, traitement antituberculeux, lorsque les médicaments étaient donnés séparément, et c'était un véritable petit déjeuner, il y avait énormément de comprimés à prendre par les malades, et avec l'inclusion de plusieurs molécules dans le même comprimé, aujourd'hui, le problème a permis d'améliorer quand même l'observance du traitement. Et je pense que le fait d'avoir associé les médicaments dans un seul comprimé a été une bonne chose.
Alors, pour revenir à ces objectifs mondiaux, ce sera notre conclusion, les ambitions des États, les organisations de santé, les donateurs pour lutter contre les maladies infectieuses, tout ça, ça peut sembler un petit peu difficile à atteindre, hors de portée. Et on voit justement pointer régulièrement la question du sous-financement en matière de lutte contre la tuberculose. J'ai une question qui va peut-être être jugée provocante. Pourquoi est-ce qu'on donne autant pour le sida et finalement si peu pour la tuberculose, professeur Serge Domois ?
Je sais pas la réponse à la question. Je sais que vendredi prochain, je fais une plénière qui est intitulée « L'éradication de la tuberculose, est-ce réalisable ?» Mais je me rends compte que la stratégie NTB en 2035, il y a eu un bel article qui est paru en 2015 dans l'European Respiratory journal qui montre que même dans les projections les plus optimistes pour les pays qui ont une incidence faible de la maladie, en 2035, aucun pays développé n'aura atteint le stade d'élimination de la tuberculose. Par contre, il y a deux pays qui auront atteint le stade de la préélimination, c'est le Costa Rica et l'ordre souverain de Malte. Donc, je pense que c'est des objectifs qui ont été très ambitieux avec des recommandations d'accompagnement. Mais on aura encore la tuberculose avec nous pendant longtemps. Ça, c'est mon avis.
Vous vouliez réagir, docteur Olivier Marcy? Peut-être, on peut pas mettre en rivalité hein, la lutte contre les différentes maladies. En plus, c'est contre-productif. Mais quand même, pourquoi finalement la tuberculose, qui a été au siècle passé l'une des grandes maladies qui faisait peur, avec beaucoup de prévention, notamment par la vaccination, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un vrai sujet. Pourquoi aujourd'hui ça mobilise si peu les pouvoirs publics et aussi les médias?
Alors, je pense qu'il y a eu la chance que nous avons eue pour ceux d'entre nous qui avons travaillé sur le VIH, c'est d'avoir été questionnés et confrontés tout de suite à la mobilisation des malades, des acteurs communautaires, de ceux qui étaient touchés par la maladie. C'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place sur la tuberculose. Il y a maintenant des associations qui s'impliquent et je crois que tout le monde doit être impliqué, que ça soit les médecins, les épidémiologistes, les infirmiers, les politiques, on en a parlé tout à l'heure, et je crois que cette mobilisation de la communauté a été très particulière sur le VIH. Elle a changé complètement la pratique de la médecine, l'implication du patient. Elle l'a changé pour les cancers. Elle l'a changé. Elle le change maintenant pour la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie qui a 70 000 ans. C'est une vieille dame. C'est une vieille maladie. Vous savez, le BCG, ça date de 1921.
Mais j'ai envie de vous dire une vieille dame qui résiste.
Une vieille dame qui résiste à tout, mais hein. C'est vrai que le monde de la tuberculose, on a parlé tout à l'heure avec le professeur Dabis des problèmes d'adhérence, d'observance. Et en fait, dans le monde de la tuberculose, on a eu du mal à faire confiance à nos patients, à ne pas leur demander de prendre les traitements devant nos yeux, alors qu'on le fait pour le VIH pendant 30 ans, pendant toute une vie. Donc c'est un monde qui est en train de changer. Cette implication politique est nécessaire. Et donc voilà, je pense qu'on est un temps clé, un changement vraiment important.
Vous voulez apporter justement votre pierre à l'édifice, professeur Dabis?
Moi, je dirais simplement qu'il faut pas avoir peur d'objectifs ambitieux. Il faut fixer la barre haut parce qu'il faut vraiment avancer vite maintenant. On a les moyens financiers, on les a souvent, mais les programmes nationaux sont souvent assez peu organisés encore malgré tout. Et donc, ils sont un peu difficiles pour d'absorber souvent des ressources supplémentaires rapidement, etc. Donc, il faut pas éviter d'avoir des objectifs ambitieux. On les atteindra peut-être pas, comme l'a dit notre confrère ivoirien, on les atteindra peut-être pas dans les temps, mais il faut vraiment qu'on aille dans cette direction, et vite.
Et quand on a des objectifs, justement, professeur François Dabis, il faut aussi miser sur l'avenir, notamment sur la recherche. Et ce que l'on entend aussi fréquemment, c'est que, eh bien, en matière de recherche, de nouveaux traitements, ça pêche du côté de la tuberculose et de certains, en tout cas, de certains antibiotiques, ces nouveaux médicaments pour faire face, justement, au cas de tuberculose ultra-résistante.
Alors, vous avez en partie raison, c'est-à-dire que pendant des années et des années, on a plaidé pour que la recherche, bien sûr, soit financée, mais cette recherche-là, et vous venez de parler des traitements, elle suppose aussi qu'on ait des vrais partenariats avec l'industrie et que l'industrie pharmaceutique s'intéresse suffisamment à ces sujets pour que on puisse avancer sur des pistes. On est en train d'avancer, on pourrait faire une émission sur les avancées, mais elles ne sont pas prêtes encore, ces avancées. Mais elles vont l'être, je pense, assez vite. Est-ce qu'on va avoir une révolution thérapeutique pour la tuberculose? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais on a bien sûr besoin de recherche sur à la fois les molécules à utiliser et sur la manière de les utiliser.
Docteur Olivier Marcy, est-ce qu'il faut justement de nouveaux médicaments pour justement aller vers cette ambition de réduction notable des cas de tuberculose dans 10, dans 20 ans?
On a besoin de le traitement actuel de la tuberculose pour le traitement de première ligne, pour les cas qui ne sont pas résistants, est finalement bien toléré. Il est long, 6 mois, c'est difficile de prendre un traitement pendant 6 mois. Il y a eu plusieurs essais pour tenter de le réduire à 4 mois, des essais infructueux. Pour l'instant, l'idée est vraiment plutôt de faire face à cet afflux massif de tuberculose multirésistante. Il y a 5% des tuberculoses dans le monde, hein. Sur les 10 millions, il y a 500 000 tuberculoses résistantes. On en traite correctement qu'un tiers. et on en traite correctement un tiers avec des traitements de 24 mois qui rendent les patients sourds, qui donnent beaucoup d'effets secondaires. Donc vous imaginez bien le contexte. Il y a eu, le professeur Dabis rappelait que effectivement les progrès sont lents. Il y a deux nouveaux médicaments qui sont récemment mis sur le marché, qui sont un espoir pour le traitement de la tuberculose multirésistante. Et il y a des régimes courts. L'OMS vient de recommander de raccourcir le traitement qui était de 20 à 24 mois à 9 mois. Et la Côte d'Ivoire, notamment, a contribué à cet effort en mettant en œuvre des recherches qui ont permis d'aboutir à ces résultats. Donc, sur le traitement de la tuberculose de première ligne, les progrès, il pourrait y avoir des progrès, mais c'est pas le point qui est nécessaire. Là, on pense plutôt au diagnostic. Encore une fois, je voudrais rappeler ça. Un tiers des patients ne sont pas diagnostiqués dans le monde. Plus de 50% des enfants ne sont pas diagnostiqués. Donc là, il y a un besoin très important de tests diagnostiques pour le traitement. L'image est un peu différente.
Professeur Serge Daumois, on est chez vous ici. C'est un petit peu la tradition dans Priorité Santé. À la fin des entretiens, on demande aux médecins si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel ?
Le véritable problème, c'est que quand on traite les malades, il faut insister sur l'observance. Lorsque le traitement est pris correctement, aux doses qu'il faut et pendant la durée qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'on développe les résistances. Donc, pour moi, c'est que tous les patients pour lesquels un cas de tuberculose a été dépisté puissent prendre correctement leurs médicaments aux doses prescrites et pendant toute la durée requise pour pouvoir assurer la guérison.
Merci beaucoup, professeur Serge Daumois, chef du service de pneumophysiologie au CHU de Trècheville, ici. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Professeur François Dabis, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Bordeaux, directeur de l'ANRS et docteur Olivier Marcy, médecin épidémiologiste. Merci à vous, messieurs. Cette émission consacré aux objectifs de lutte contre la tuberculose touche à sa fin. Une émission produite avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Merci à l'équipe de Priorité Santé, Ophélie Lassène et Victor Hull, à Sétou Samaké à Paris. Demain, toujours dans Priorité Santé, toujours ici à Abidjan pour la conférence ICASA, nous parlerons de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Merci et à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.